Vous écoutez, on lit pour vous.
13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU. À propos de l'albinisme. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Dans presque tous les cas d'albinisme, les deux parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation, mélanine, sur les cheveux, la peau et les yeux, albinisme oculo-cutané, et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde. En Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Les estimations oscillent entre un cas sur 5 000 et un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne où cette condition est plus répandue. On ne dispose cependant que de peu de données relatives à la prévalence de l'albinisme par pays. Albinisme et santé. Le manque de mélamine signifie que les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau. Dans certains pays, la majorité des personnes atteintes d'albinisme décèdent d'un cancer de la peau entre 30 et 40 ans. Le cancer de la peau est hautement évitable lorsque les personnes atteintes d'albinisme peuvent exercer pleinement leur droit à la santé. Cela comprend l'accès à des contrôles de santé réguliers, à un écran solaire, à des lunettes de soleil et à des vêtements de protection contre le soleil. Dans un grand nombre de pays, ces moyens ne leur sont pas disponibles ou leur sont inaccessibles. Par conséquent, les personnes atteintes d'albinisme ont été et restent parmi les laissés pour compte de la société. Ils doivent donc faire l'objet d'interventions en faveur des droits humains conformes aux objectifs de développement durable des Nations unies. En raison d'un manque de mélanine dans la peau et les yeux, les personnes atteintes d'albinisme ont souvent une déficience visuelle permanente qui conduit souvent à des handicaps. Elles sont également victimes de discrimination en raison de la couleur de leur peau. Par conséquent, elles sont souvent victimes de discriminations multiples et croisées, fondées à la fois sur le handicap et la couleur de peau. Le saviez-vous? L'albinisme est une maladie génétique héritée des deux parents qui se produit dans le monde entier, indépendamment de l'origine ethnique ou du sexe. L'absence fréquente de mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux des personnes atteintes d'albinisme provoque la vulnérabilité à l'exposition au soleil, ce qui peut conduire à un cancer de la peau et à des déficiences visuelles sévères. Le terme « personne atteinte d'albinisme » est préférable à celui d'albinos, lequel est souvent utilisé de manière péjorative. Dans certains pays, les personnes atteintes d'albinisme souffrent de discrimination, pauvreté, stigmatisation, violence et sont même victimes de meurtres. Dans certains pays, les femmes qui donnent naissance à un enfant atteint d'albinisme sont répudiés par leur mari et leurs enfants sont abandonnés ou victimes d'infanticide. L'industrie du cinéma a rarement décrit les personnes atteintes d'albinisme de manière juste, préférant les dépeindre comme des méchants, des démons ou des caprices de la nature. La violence contre les personnes atteintes d'albinisme rencontre souvent un silence et une indifférence et est rarement suivie d'enquêtes ou de poursuites des auteurs. C'était 13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU.
Au moins 7 ans d'attente entre le statut de réfugié et la résidence permanente au Québec. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 13 mai 2025 dans Le Devoir. Les demandeurs d'asile qui arrivent ces temps-ci au Québec devront patienter au minimum 7 ans avant de devenir résidents permanents. Et ces délais ne peuvent que s'allonger dans l'état actuel des choses, car l'arriéré de cas ne cesse de grandir à cause tant de la machine fédérale que des quotas provinciaux. Du reste, les délais sont considérablement plus longs qu'auparavant et à peu près le double de ce que des politiciens ont récemment affirmé publiquement. Une partie de ces délais, environ 37 mois, est de nature administrative auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, CISR, qui décide du refus ou de l'acceptation d'une demande d'asile. Une autre, d'à peu près 45 mois, est de nature plus politique. Le plus long délai entre le statut de réfugié et la résidence permanente est en fait causé par la cible de Québec, qui ralentit le traitement de dizaines de milliers de demandeurs d'asile déjà reconnus par Ottawa. Le gouvernement de François Legault aurait ainsi le pouvoir d'accélérer le traitement de 42 000 dossiers, soit 23 % du total de 180 000, le nombre qu'il utilise pour réclamer à Ottawa de diminuer cette catégorie. Il faut dire que le nombre de nouvelles demandes d'asile a considérablement augmenté dans les dernières années. Le nombre de dossiers en attente devant la CISR a presque doublé entre 2023 et 2024. Des délais à plus d'une étape. En ce qui a trait aux délais, le ministre québécois de l'immigration, Jean-François Roberge, qualifiait récemment à l'Assemblée nationale d'incurie les délais de 37 mois qu'il faut à la CISR, un tribunal administratif fédéral, pour décider si une demande d'asile est fondée ou non. Ce délai projeté représente en effet le temps que la CISR estimait en mars 2024 pour les nouvelles demandes récentes. La CISR refuse maintenant de fournir au devoir le temps d'attente projeté à cette étape, affirmant que les délais sont hors du contrôle de la Commission. Ce tribunal administratif affirme cependant que les demandes réglées dans la dernière année, d'avril 2024 à mars 2025, avaient attendu en moyenne 15 mois, délais passés et non projetés. Il est difficile de percer la formule magique de la CISR, commente l'avocat en immigration Alfredo Garcia. Je pense qu'il y a une stratégie d'entendre des dossiers très récents au plus vite pour faire baisser la moyenne, dont des personnes non représentées. Ce n'est pas, en tout cas, premier arrivé, premier traité, dit-il. La capacité de traitement de la CISR a augmenté dans les dernières années, grimpant à près de 60 000 demandes réglées l'an dernier, mais pas aussi vite que les arrivées. Résultat, le total atteint aujourd'hui 280 000 dossiers et il continue d'augmenter, avec 9 000 dossiers de plus sur la pile entre le début de 2025 et le 1er avril 2025. À ce rythme, c'est donc plutôt 56 mois qu'il faudra pour tout régler si l'on calcule mécaniquement. Il peut y avoir des dossiers qui se règlent en même temps en une seule audience, avec les enfants, par exemple. Remarque toutefois Chantal Iannicello, membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Autre fait notable qui pourrait influencer les délais à la baisse dans les prochaines années, la proportion de demandes retirées ou de désistements a doublé l'an dernier, atteignant près de 21%. C'est possible que la situation au pays se soit rétablie ou qu'ils aient d'autres raisons pour ne pas rester ici. Ils font partie de l'inventaire en ce moment, mais ne se rendront pas à l'audience, ajoute-t-elle. L'étape provinciale souvent sous-estimée. Un autre politicien a s'indigné des délais, le chef bloquiste Yves-François Blanchette, citait notamment lors du débat télévisé en français le chiffre de près de 4 ans ou 47 mois, comme cela est indiqué dans le programme de son parti. En effet, une fois que la CISR a accepté une demande d'asile, la personne devient protégée et peut obtenir la résidence permanente. La personne protégée présente alors son dossier d'abord à Québec, puis à Ottawa. Et même si c'est le ministère fédéral qui gère cette toute dernière étape, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada respecte les cibles fixées par la province, nous confirme-t-on sans détour. Résultat, là aussi, un goulot d'étranglement s'est créé, avec 42 000 dossiers dans cette pile, alors que la cible du ministère de M. Roberge est de 3 500 par année. Le délai est actuellement de 45 mois pour ces personnes protégées au Québec. Mais avec la cible actuelle, les dossiers les plus récemment arrivés dans la pile prendront près de 12 ans. Cet entre-deux les force notamment à renouveler leur permis de travail à intervalles réguliers. Et elles ne peuvent pas faire venir leur famille, parfois laissées dans des conditions difficiles dans leur pays d'origine, comme le rapportait récemment Le Devoir. Conséquence. Il n'y a pas de secret tant qu'il va rentrer plus de demandeurs d'asile que ce que la Commission est capable de traiter. Les délais vont s'allonger, résume pour l'étape administrative Stéphane Anfield, avocat et aujourd'hui co-porte-parole du Parti québécois en immigration. Il précise qu'il ne blâme pas les commissaires puisqu'il faut prendre le temps à chaque dossier devant des demandeurs d'asile qui ont des histoires à raconter. Des enfants naissent. Des couples se forment, des vocations ou des emplois se trouvent. De tels délais ont des effets pervers pour les principaux concernés qui ont parfois dû laisser derrière eux des membres de leur famille dont certains vivent cachés au pays dans la peur, relate-t-il. Mais les délais peuvent aussi avoir l'effet paradoxal d'attirer des gens qui n'ont pas nécessairement de motifs pour demander l'asile, mais qui veulent améliorer leur sort en travaillant. Qu'ils soient finalement refusés ou acceptés, ils disposent de plusieurs années pour travailler, ce qui peut devenir une forme d'incitatif, croit M. Anfield. Le problème avec une attente aussi longue est que la situation évolue aussi dans le pays d'origine, souligne quant à lui Maître Garcia. Le commissaire peut par exemple demander « Pourquoi êtes-vous encore en danger 3 ans plus tard ?» Le décideur sur une demande d'asile peut même aller jusqu'à dire « Oui, je crois effectivement qu'il t'est arrivé tout ça, que tu étais persécuté, mais tu n'as pas de risque prospectif », décrit-il. Même une fois cette étape stressante et exigeante passée, s'il faut possiblement encore 4 ou 5 ans avant d'avoir la résidence permanente et faire venir sa famille, c'est inhumain, lâche-t-il. Pour Maître Iannicello, c'est également l'étape la plus problématique alors que ses clients sont entendus après environ 2 ans actuellement, un délai raisonnable à ses yeux. Accélérer le traitement à la CISR nécessiterait des investissements en ressources humaines pour embaucher plus de commissaires. Raccourcir le délai subséquent serait plus mécanique, dit-elle, puisque les demandeurs sont déjà acceptés, mais plus politique puisque Québec a de nouveau promis de réduire l'immigration permanente en 2026. C'était au moins 7 ans d'attente entre le statut de réfugié et la résidence permanente au Québec, un texte de Sarah R. Champagne paru le 13 mai 2025 dans Le Devoir.
Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme. Rob Darius, Robin X. Brown. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Rob Darius, Robin X. Brown, rappeur, militant, modèle. Rob Darius Brown, dont le nom de scène est Robin X, a voulu raconter son histoire au monde entier après qu'une chaîne d'information locale de sa ville natale de Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis, l'a interviewé à propos de son amour de la musique et du harcèlement et des agressions dont il a été victime en raison de son albinisme. Son histoire est une histoire de confiance en soi, d'estime de soi et d'acceptation du caractère unique de son identité. Il y a une citation qui lui correspond tout à fait. « Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. » Walt Disney. Crise de croissance. Ma principale motivation, c'est d'avoir décidé de rester en vie. Il m'est arrivé des choses fantastiques dans ma vie depuis que j'ai pris cette décision cruciale. J'aimerais dire au monde entier de ne pas prendre de décision en fonction de sa vie actuelle. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Si j'avais pris ma décision en fonction de ce qu'était ma vie à l'époque, ma mère n'aurait eu d'autre choix que d'enterrer son fils unique. Je m'appelle Rob Darius Brown. J'ai 15 ans. Je suis né avec l'albinisme. Je souffre d'albinisme oculaire, c'est-à-dire une absence de pigmentation qui touche mes cheveux, ma peau et mes yeux. À la base, je suis un garçon noir qui a l'air d'être un blanc né de parents afro-américains. Bien évidemment, je n'ai pas eu la vie facile dans mon enfance. J'ai été victime de brimades tout au long de ma vie. J'ai vécu blessé, le cœur brisé pendant pratiquement toute mon enfance. Déclic. J'ai trouvé un moyen de soulager ma peine. Je me suis mis à écouter de la musique. La musique m'aidait à accepter mes émotions, alors je me suis mis à en écrire. Puis je suis devenu rappeur, ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi, et en retour, je me suis fait des amis. Aujourd'hui encore, certains disent que je suis laid parce que j'ai la peau et les cheveux blancs. Les gens continuent de me regarder avec insistance. Rien n'a changé. Les gens me regardent et me fixent toujours comme quand j'étais petit garçon. Ce qui a changé, c'est que je comprends mieux qui je suis, que je m'accepte comme je suis. Je me regarde dans le miroir et je m'accepte. Si seulement ils pouvaient comprendre ce que nous devons endurer. Quand je dis « nous », je veux parler des gens nés avec l'albinisme. Message. Je suis né aveugle au sens de la loi. Le soleil me fait mal aux yeux et m'empêche de bien voir. Mes yeux sont rouges parce que la lumière pénètre directement jusque derrière mes yeux. Si seulement ils savaient que quand ils voient le rouge, c'est comme s'ils voyaient à travers moi. J'ai la peau blanche parce que je n'ai aucune protection contre le soleil. Si seulement ils savaient que je brûle en une journée à la plage. Je vis au quotidien dans la peur du cancer de la peau. Ma famille me traite normalement. Mais quand je suis à l'extérieur, on me fait sentir que je suis différent. Maintenant, je veux embrasser ma différence. Ce n'est pas grave d'être différent, c'est même cool. Je veux que tout le monde sache que nous sommes comme tout le monde. Je veux que tout le monde nous comprenne. C'est comme ça que nous pourrons sensibiliser les gens à l'albinisme. Aspiration en matière de droits de l'homme. Je veux que le monde nous accepte pour ce que nous sommes. Les personnes atteintes d'albinisme sont comme tout le monde. Nous sommes aussi chez nous ici. Nous sommes aussi compétents et talentueux que n'importe qui. J'ai créé une fondation qui s'appelle Dream Forever, rêve pour toujours. J'aimerais voyager dans le monde entier pour sensibiliser les gens à l'albinisme. j'aimerais prouver à ceux que l'on considère comme différents qu'ils peuvent réaliser tous leurs rêves. J'aimerais qu'ils sachent qu'ils ont le droit de rêver. » C'était « Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme » Rob Darius, Robin X. Brown. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Plaidoyer pour davantage de tournages en région. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 15 mai 2025 dans Le Devoir. Les îles de la Madeleine n'attirent pas que des touristes. L'archipel sert aussi de lieu de tournage pour des films et des séries. Le studio américain Disney va y réaliser des scènes à l'été 2025 et la maison québécoise Zone 3 va y tourner des émissions du concours d'aventure épique à Télé-Québec. À la fin du mois, une nouvelle saison de Temps de chien à Radio-Canada y prendra vie. En ce moment même, les équipes s'activent pour une deuxième saison de la série policière Détective surprenant. Cette région du Québec n'aurait-elle donc pas de quoi se plaindre concernant son attractivité audiovisuelle? Oui et non. Oui, bien sûr, avec ces quatre très beaux exemples, les îles de l'Estuaire tirent bien mieux leur épingle du jeu des productions pour les écrans que bien d'autres coins du Québec. Une association représentant le milieu du cinéma professionnel hors Montréal demande d'ailleurs au ministère de la Culture et des Communications de mieux équilibrer la répartition géographique du financement cinématographique et télévisuel au Québec. La requête est formulée dans une lettre au ministre Mathieu Lacombe, reproduite dans Le Devoir. Les données citées par la Table de concertation interrégionale en cinéma, TACIC, établissent que les régions représentent 95 % du territoire, concentrent plus de la moitié de la population, tout en ne recevant bon an mal an que de 10 % à 20 % du financement des films et des émissions de télé. La part du Lion revient à la grande région de Montréal. Cette disparité reproduit celle observée dans tout le financement de la culture. En même temps, tout ne va pas pour le mieux non plus dans l'audiovisuel madelinot. Un exemple, seules les scènes extérieures de la nouvelle saison de Détective surprenant seront réalisées sur place ce mois-ci. Le compromis, ça a été de tourner là-bas tout ce qui représente les îles et, pour le reste, de réaliser les intérieurs à Montréal, explique Caroline Godette, présidente et productrice de Version 10, qui pilote sa première production en région avec cette série. Chloé Jiangzhou Arsenault, facilitatrice de tournage dans l'archipel avec sa compagnie KJ Productions, ajoute recevoir plein d'appels de producteurs qui veulent tourner dans les îles, mais qui ne peuvent plus le faire quand ils doivent réduire leur budget. On a l'air chanceux d'avoir ces productions, mais on pourrait en faire beaucoup plus, dit-elle. On fait des merveilles avec peu d'argent. Alors imaginez ce qu'on pourrait faire si on avait les budgets dont on a besoin. Le choix régional a un coût. Il faut déplacer les équipes, payer leur logement, payer des per diem, composer avec une météo capricieuse. Mais je trouve que ça rajoute beaucoup d'avoir des séries produites en région, dit Mme Godette. Dans notre cas, ça sert beaucoup l'histoire d'avoir des insulaires isolés géographiquement. Ça nourrit la narration. Montréalocentrisme. Le montréalocentrisme des médias et des créations culturelles n'est plus approuvé. De Faits divers, série policière loufoque campée dans les Laurentides, à Temps de chien, les rares productions régionales montrent tout l'intérêt qu'il y a à sortir du même horizon urbain bouché. La SODEC est sensible aux demandes des entrepreneurs culturels établis en région à l'égard de l'accès à ces programmes de soutien, écrit au Devoir Joanne Morissette, directrice des communications de la Société de développement des entreprises culturelles, SODEC, qui soutient l'audiovisuel au Québec. Elle cite les programmes et les initiatives encourageant les projets régionaux comme Par à l'œil, qui organise à Rimouski du mentorat pour les jeunes documentaristes. La SODEC maintient un dialogue constant avec les entrepreneurs culturels des régions afin de mieux faire connaître ces interventions et de les adapter aux besoins. Nous avons eu plusieurs bons échanges avec des membres de la TACIC dans les dernières semaines. Nicolas Paquet, directeur général de la table, rejoint à Saint-Alexandre de Kamouraska, ne veut pas parler d'injustice. Mais on voit bien que, bon an mal an, le financement du cinéma est concentré dans la région de Montréal, dit-il tout de même. Documentariste, il a notamment signé la Règle d'or en 2011 sur la transformation de la ville de Malartic par un projet minier. Il y a des histoires à raconter partout sur le territoire. Il y a des gens qui veulent voir leur réalité à l'écran. Il y a des jeunes qui ont besoin de modèles pour se dire que c'est possible de créer du cinéma en dehors de la métropole. La TACIC existe depuis 7 ans pour rapprocher les créateurs éparpillés sur le territoire. Elle compte une 100aine de membres, scénaristes, réalisateurs, producteurs, tous installés à plus de 80 km de Montréal. La réalité, c'est que c'est difficile partout en ce moment, dit Mme Godette, productrice de Bromont. Les gens des régions ont probablement l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de financement pour tourner chez eux. Je pense qu'en fait, le problème du financement est généralisé dans notre industrie. Le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec doit terminer ses travaux fin juin. Le rapport attendu doit recommander au gouvernement québécois des solutions et un plan d'action pour adapter la production et la diffusion de films et d'émissions de télévision dans le contexte de la révolution numérique, de la défection du public et de la crise du financement. Des chiffres. La SODEC a compté 5 projets régionaux, 6% parmi les 88 propositions de longs métrages reçues en 2024-2025. Aucun ne figure parmi les 18 retenus. Par contre, en 2025-2026, la société a reçu 2 projets régionaux sur 84 dossiers et a retenu la paire. Pour les courts-métrages, il y a eu 12 propositions sur 111 analysées, 12%, en 2024-2025, et 3 projets dits régionaux figurent parmi les 15 retenus, 20%. Du côté des documentaires, il y avait 13 projets régionaux soumis sur un total de 63, 21%, et 5 productions régionales comptent parmi les 19 projets soutenus. 26%. C'était « Plaidoyer pour davantage de tournage en région », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 15 mai 2025 dans Le Devoir.